Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, l'Ukraine a-t-elle les moyens de son bras de fer avec la Russie ? Avec une année qui s'achève sur des conflits particulièrement violents dans le monde, la trêve des confiseurs fait figure d'expression un peu désuète. Dans l'est de l'Ukraine, pourtant, où les combats continuent entre l'armée et les séparatistes pro-russes, on aurait presque pu y croire. Mais signé hier par les belligérants, l'accord de cessez-le-feu est déjà menacé par une reprise ce matin des attaques. Il faut dire que le contexte géopolitique ne plaide pas pour l'apaisement. Dimanche dernier, l'Ukraine a refusé de rembourser à la Russie une dette de 3 milliards de dollars qui arrivait à échéance. Prochain épisode attendu pour le 1er janvier avec l'entrée en vigueur du fameux accord de rapprochement commercial avec l'Union européenne. Le nouveau gouvernement, élu en juin 2014, a fait le choix de l'Europe, un choix aux conséquences coûteuses. Bien que les Occidentaux promettent une manne financière de plusieurs milliards, jusqu'où l'Ukraine pourra-t-elle compter sur leur soutien ? Sur place, la situation n'est pas plus rassurante. Entre instabilité militaire à l'est et impatience démocratique à l'ouest, l'Ukraine a-t-elle les moyens de son bras de fer avec la Russie ? C'est notre sujet du jour. Et trois invités pour en discuter ce soir. Anne de Tinguy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne, professeure à l'INALCO et vous dirigez le master Relations internationales. Vous êtes l'auteur de L'Ukraine, nouvel acteur du jeu international, paru chez Brûlant en 2001. Et puis vous êtes aussi chercheuse aux séries à Sciences Po. À vos côtés, Florent Parmentier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, maître de conférences à Sciences Po également, auteur de Les chemins de l'état de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie, presse de Sciences Po 2014. Et enfin, Alexandra Goujon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, spécialiste de l'espace, de l'Ukraine et du Bélarus. Vous êtes maître de conférence à l'université de Bourgogne et vous étiez récemment dans l'est de l'Ukraine à Slaviansk, notamment une ville qui a été occupée pendant 3 mois l'année dernière, une ville qui est du coup sous quelle autorité maintenant ?
L'armée, ukrainienne a récupéré Slaviansk, le contrôle de Slaviansk le 5 juillet 2014. Il y a un maire intérimaire qui a été choisi au sein du conseil municipal. Et récemment, il y a eu des élections locales qui se sont déroulées tout à fait normalement à Slaviansk.
Vous nous parlez au cours de cette émission de la situation au niveau local. Je rappelle que vous êtes aussi auteur de Révolutions politiques et identitaires en Ukraine et en Biélorussie. C'était chez Belin en 2009. Alors, je le rappelais tout à l'heure, on attend pour le 1er janvier 2016 l'entrée en vigueur de ce fameux accord de rapprochement commercial Ukraine-Union européenne. Est-ce qu'avec l'entrée en vigueur de cet accord, on arriverait à une sorte d'aboutissement d'un processus enclenché il y a maintenant 2 ans ? Je vous vois opiner du chef Florent Parmentier.
Alors je pense qu'il faut revenir sur ce que sont les accords de libre-échange approfondi et complet, tels qu'ils seront mis en œuvre à compter du 1er janvier. Ces accords donc vont au-delà du libre-échange classique. Le fait qu'ils soient approfondis et complets signifie que l'Ukraine et les acteurs économiques ukrainiens doivent intégrer un certain nombre de normes. Ces normes étant des normes techniques, des normes phytosanitaires, des normes de différents ordres et il est évident que c'est un processus qui commence. On est plus sur le début d'un processus d'adaptation des acteurs économiques ukrainiens que sur quelque chose qui est déjà acquis. C'est-à-dire qu'il va y avoir un ensemble de transformations à effectuer, d'amélioration du climat d'affaires, qui, dès lors, va renvoyer un certain nombre de questions, comme celle de la corruption, comme celle de la bonne gouvernance de l'Ukraine.
Alors, quand je parlais d'aboutissement d'un processus, c'était par rapport à la révolution que ce projet d'accord a déclenché en Ukraine. Anne de Tinguy, sur cette question. Donc, on arrive à la fin de quelque chose, même si, bien sûr, ça va enclencher aussi le début d'autre chose.
Alors, c'est pas la fin de quelque chose, mais c'est en effet un processus de très longue date. Et je crois que justement, avoir présent à l'esprit qu'on a un processus de très longue date permet d'emblée de donner un premier élément de réponse à la question que vous avez posée pour cette émission. L'Ukraine a-t-elle les moyens de son bras de fer avec la Russie? L'Ukraine, bien qu'elle ait conforté ses moyens militaires, n'a pas des moyens militaires suffisamment forts pour s'opposer à la Russie. Dans le domaine économique, on en reparlera, même si aucun d'entre nous n'est économiste, mais on pourra quand même dire que la situation est très compliquée. Mais par contre, l'Ukraine a une formidable volonté d'indépendance qui s'est manifestée maintenant à maintes reprises et qui s'est notamment manifestée au moment de la révolution orange en 2004 et puis lors de Maïdan en 2013. Et donc ça, je crois que c'est le point le plus important qu'il faut souligner, qui fait que la situation est très difficile en Ukraine, mais pourtant je dirais que les Ukrainiens sont sûrs d'eux-mêmes et grosso modo, quand on regarde les enquêtes d'opinion tout à fait sérieuses qui sont faites régulièrement, eh bien on voit que en majorité en fait les Ukrainiens sont optimistes en dépit de toutes les difficultés qu'ils rencontrent.
Alors, le 1er janvier, Vladimir Poutine l'a annoncé, la Russie va, elle, suspendre sa zone de libre-échange avec l'Ukraine. Donc, je parlais de fin de cycle, mais on peut aussi peut-être dire un pas de plus dans le conflit avec la Russie. Alexandra Goujon.
Oui, pour répondre à votre question, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'effectivement, la révolution et tout le processus de transformation politique est né, effectivement, de la suspension de la signature de l'accord et bien évidemment d'une pression économique de la part de la Russie qui ne voulait pas que l'Ukraine signe cet accord de libre-échange avec l'Union européenne. Donc bien évidemment on est effectivement à la fin d'un processus qui a duré quand même plusieurs mois avec un bras de fer. Il ne faut pas l'oublier, cet accord de libre-échange a été retardé dans son entrée en vigueur d'une année. La Russie ayant fait pression sur l'Union européenne pour en fait continuer à faire partie d'un cycle de négociations tout simplement l'Union européenne a tenu bon en quelque sorte, c'est-à-dire que elle a proposé un certain nombre d'aménagements, mais vu les résistances très importantes de la Russie, finalement cet accord entre en vigueur, donc le 1er janvier. J'émets quand même une toute petite réserve. Il faut savoir qu'un seul pays a décidé, via un processus notamment de référendum citoyen, ce sont les Pays-Bas, il va y avoir un référendum sur, alors qui est consultatif, mais un référendum donc sur cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Ukraine qui va se dérouler au printemps. Donc en fait, cet accord entre en vigueur, mais pour qu'il soit officiellement ratifié par tous les États, il y aura un petit délai, donc il faudra quand même aussi regarder de ce côté-là. Il n'est pas non plus complètement inenvisageable que la Russie fasse pression sur ces questions-là.
Donc dossier à suivre. Il y a un autre point de litige récemment, la question de la dette. Dimanche dernier, l'Ukraine a donc refusé de rembourser une dette de 3 milliards de dollars qui avait été accordée au gouvernement précédent, à Viktor Yanukovych. Quelles peuvent être les conséquences du refus du paiement de cette dette à la Russie, Anne de Tinguy?
Alors, je crois que pour bien le comprendre, il faut revenir un petit peu en arrière et rappeler quelque chose de tout à fait basique. C'est que initialement les relations entre les Russes et les Ukrainiens étaient très bonnes. Je veux dire, les liens amicaux, familiaux.
Vous voulez dire entre les populations ou entre les gouvernements?
Entre les populations et même entre les élites politiques, où il y avait aussi d'autres liens qui sont pas seulement amicaux. Mais depuis très longtemps, les liens sont très étroits. Et auprès des Ukrainiens, les Ukrainiens avaient, je dirais, une sympathie spontanée pour les Russes. Alors historiquement, il y a bien sûr eu déjà des drames et des tragédies, notamment la grande famine en 1932-33 qui avait déjà profondément marqué les relations. Les relations étaient tumultueuses depuis longtemps. Il n'en reste pas moins que entre les deux peuples et entre les élites, les relations étaient bonnes. Ces relations, elles ont été détruites, ravagées par ce qui s'est passé depuis 2 ans et en particulier par l'annexion par la Russie de la Crimée et par l'intervention militaire de la Russie dans le Donbass. Et donc depuis, eh bien évidemment, tout a changé. Je veux dire, déjà, les Ukrainiens n'aimaient pas que les Russes portent atteinte à leur souveraineté, mais là, ça va bien au-delà de tout ce qu'un pays ou une population peut accepter. Et depuis, on assiste en effet à une rupture entre les deux pays qui est manifeste dans de très nombreux domaines, y compris dans le domaine économique.
Rupture des relations, comme vous dites, accord avec l'Union européenne, refus de payer une dette. Florent Parmentier, est-ce que l'Ukraine vient de tourner un peu définitivement une page dans ses relations avec la Russie ?
Il faut toujours se méfier des tournants définitifs. Peut-être pour revenir à la précédente question, concernant le remboursement donc, de l'Ukraine vis-à-vis du prêt de 3 milliards qui a été effectué fin 2013 auprès de Viktor Yanukovych. Il y a un impact certain qui sera ce qui concerne les enjeux financiers au niveau international. Pourquoi ? Parce que ce prêt a été reconnu comme une dette souveraine par le FMI et non pas comme une dette commerciale. Ce qui veut dire que l'Ukraine a l'obligation de s'acquitter de cette dette. Il y avait une proposition de rééchelonnement qui avait été proposée par la Russie au mois de novembre, non pas de remise de dette, comme ont fait d'autres partenaires internationaux, mais de rééchelonnement sur 3 ans, coupé en 3 finalement les 3 milliards de dollars. Et cette proposition avait été, pour plusieurs raisons, refusée. Cela engendrera certainement une difficulté plus grande pour les Ukrainiens si demain ils doivent emprunter sur les marchés internationaux financiers, en disant qu'il y a un risque pays finalement qui est plus important que ce à quoi on s'attendait.
Donc ce refus de payer, c'est une posture ? Les Ukrainiens vont finir par devoir payer cet argent qu'ils doivent à la Russie.
Ils auront, en tout cas, sur le plan international, ne pas le faire sera extrêmement coûteux. Donc, in fine, on peut penser qu'ils seront amenés à le faire. Après, il y a des conditions politiques internes qui ont été très bien rappelées, qui feront qu'il sera difficile pour un gouvernement à Kiev de comprendre pourquoi lui devrait s'acquitter de 3 milliards de dollars, alors même qu'une partie de sa population entend plutôt essayer de savoir quels sont les dommages de guerre que la Russie devrait à l'Ukraine, si vous voulez, par rapport, ce serait la vue de Kiev, si vous voulez, de certain nombre de personnes à Kiev.
Alors, pour revenir un instant sur la situation sur place, Alexandra Goujon, vous étiez récemment en Ukraine. Donc, je disais, un accord de cessez-le-feu avait été trouvé hier, qui semble être remis en cause. Est-ce qu'il faut en conclure qu'il n'y aura pas de trêve de nouvel an à l'est de l'Ukraine ? Et ces flambées de violence qui sont régulièrement décrites ces derniers mois, qui est responsable de ces flambées de violence régulières sur le terrain ?
Alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait moi j'étais du côté ukrainien, j'ai rencontré un certain nombre de militaires qui sont à peu près à 20-30 kilomètres de la ligne de front. Les militaires ukrainiens, comme d'ailleurs le gouvernement ukrainien via son conseil de sécurité, évoquent les violations venant du camp des séparatistes qui sont régulières. Les militaires évoquent le fait qu'il y a aujourd'hui une pression qui pèse sur eux pour qu'il n'y ait pas de riposte. Et qui est lié notamment au fait que l'Ukraine veut absolument essayer de montrer qu'elle a une bonne volonté de respecter les accords de Minsk, contrairement aux séparatistes. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a une mission d'observation de l'OSCE sur place qui évoque quand même assez régulièrement la transparence côté ukrainien. Visiblement, il y a une très grande transparence dans la possibilité d'observer ce que fait l'armée ukrainienne sur le territoire contrôlé par cette armée, alors que il est quasiment impossible aujourd'hui d'observer du côté séparatiste, même si il y a une mission qui circule hein, dans, sur ces territoires-là, mais qu'en fait elle ne peut pas observer, notamment les positions qui sont les plus proches de la ligne de front. J'étais dans des villages proches du front qui disaient avoir entendu dans certains villages qui entendent régulièrement de toute façon hein, des détonations, mais là où j'étais, en tous les cas, les derniers bombardements avaient eu lieu fin août.
Alors, donc, du côté des séparatistes, justement, fin octobre, il avait été annoncé un report des élections locales qui étaient prévues dans les régions séparatistes. Est-ce que ce report, c'était pas tout de même une volonté d'apaiser un petit peu les choses sur place ?
Du côté des séparatistes, bien évidemment. Si vous voulez, la question qui se pose quand même dans les accords de Minsk, c'est quand même une. Il y a deux questions qui se posent. C'est comment l'Ukraine peut retrouver, peut regagner le contrôle du Donbass et notamment de sa frontière extérieure avec la Russie. C'est quand même. Et deuxièmement, comment va continuer à fonctionner le Donbass? Et là, alors bon, on revient sur des choses qui ont été dites maintes fois, qu'il faut rappeler et qui sont utiles, c'est-à-dire la comparaison tout simplement avec les autres territoires qui sont dans ce cas-là, la Transnistrie qui n'est pas très loin, que Florent Parmentier connaît bien, nous laisse penser aux acteurs locaux, y compris les militaires que j'ai pu rencontrer, nous laisse penser que cette situation va durer. Et cette question du statut du Donbass, hein, ça me fait penser à la question de la fédéralisation de la Moldavie, qui est une rengaine depuis des années. Cette question du statut du Donbass va de toute façon provoquer, y compris, enfin, des divisions aussi en Ukraine. On l'a vu d'ailleurs, hein, ça a été mentionné. Il y a une ligne qui était mentionnée dans la loi sur la décentralisation votée en août, et ça a été immédiatement une espèce d'étincelle dans la division entre ceux qui pensent qu'aujourd'hui, finalement, à demi-mot, le Donbass peut être abandonné, et ceux qui considèrent que le Donbass est ukrainien et pour lequel ils vont continuer à se battre.
Vous parlez de division en Ukraine. Le 16 décembre, les autorités ont, alors c'était une demande du ministère de la Justice, ont décidé l'interdiction du parti communiste dans le pays, qui est accusé de soutenir les séparatistes pro-russes. Néanmoins, interdire un parti dans un pays qui vient de faire une révolution démocratique, est-ce que c'est pas une mesure un petit peu contre-productive, Anne de Tinguy?
Oui, alors c'était pas seulement le Parti communiste. Il y a eu une volonté très forte de rompre avec le passé soviétique. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu, en effet, plusieurs décisions qui ont été prises. Ce qu'on a regretté à ce moment-là, c'est que ces décisions avaient été prises sans qu'il y ait eu beaucoup de débats préalables. Autrement dit, que la population n'avait probablement pas suffisamment été associée à cette décision.
Alors le responsable d'Amnesty International pour la zone parle quand même de l'Ukraine va en arrière et non en avant sur la voie des réformes pour un plus grand respect des droits de l'homme. Florent Parmentier, vous qui travaillez sur l'état de droit.
Je pense qu'à l'époque, la perception d'un certain nombre d'Ukrainiens à ce sujet a été qu'il s'agissait là d'une manœuvre de diversion. C'est-à-dire, au lieu de s'occuper d'un certain nombre de problèmes très concrets, de réformes de l'État, on s'est occupé de parler de ces questions-là. Il y avait deux approches. Il y a ceux qui disent que, de toute façon, il aurait fallu, dès 91, décommuniser, parce que on peut pas continuer à porter, c'est une position tout à fait compréhensible, de drapeau à l'effigie de Staline dans un pays qui a souffert, comme on l'a rappelé tout à l'heure, entre plusieurs holodomors, c'est-à-dire l'extermination par la faim, qui a concerné toute une génération et dont le bilan est absolument effroyable. On aurait pu soit le faire il y a 25 ans, soit le faire ultérieurement et d'une autre manière. Imposer à la population de changer tous les noms de rues, de villes, de revenir, etc. C'était pas forcément politiquement la chose la plus à droite à faire au moment où ça a été fait l'an passé.
Changer les noms de rues et interdire un parti, c'est pas la même chose quand même.
Bien sûr, mais c'était en quelque sorte une sorte de continuité de cette idée qu'il fallait couper radicalement avec ce qui a eu lieu avant 91. Et effectivement, voilà, les deux ne sont pas à mettre sur le même plan, mais ça participe de la même manœuvre un peu dilatoire ou de la politique de diversion.
Alexandra Petro-Poroshenko ne risque pas de saper un peu sa légitimité démocratique par ce geste ?
Non, pas du tout. Alors en fait, ce qui se passe, j'en ai discuté, et là il y a eu un certain nombre de conférences de presse, parce qu'il y a, aussi une commission, la commission de Venise, qui a remis en cause un certain nombre d'éléments sur les lois de la décommunisation. Et d'ailleurs, les personnes qui ont, qui ont élaboré ces lois sont prêtes notamment à les retravailler, à les amender. Hein. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, ces lois sur la décommunisation n'entraînaient pas automatiquement l'interdiction du Parti communiste. Il y avait en fait plusieurs partis politiques dont les symboles et le nom qui renvoyaient à l'idéologie communiste nécessitaient d'être modifiés. Et en fait, le Parti communiste aurait très bien pu continuer à exister en modifiant son nom, en modifiant ses symboles, ce que ne voulait pas faire le Parti communiste. Et pour en fait les personnes qui aujourd'hui sont en charge de cette décommunisation, l'idée finalement qu'il existe un parti communiste n'est pas forcément problématique. Le problème, c'est l'idée d'un parti communiste qui se revendique, comme étant son héritage ce qu'a pu faire le parti communiste ukrainien, en fait. Et on a rappelé la famine dans ce cadre-là. Et donc, en fait, il y a une espèce de rapport de force. Le parti communiste n'a pas voulu, quelque part, modifier quoi que ce soit de son programme, de son nom, etc. Si vous voulez, n'a pas voulu, en quelque sorte, se réformer. Et c'est ça aussi que reprochent quelque part ceux qui aujourd'hui travaillent sur la décommunisation. Et en plus, si vous reprenez les discours du responsable du Parti communiste au moment de l'intervention dans le Donbass, plus ce qu'ont pu faire un certain nombre de communistes dans un certain nombre de villes, y compris à Slaviansk où j'étais au moment de l'occupation, ça fait quelque part une seconde raison à cette interdiction. J'en rajouterai une troisième, et ça s'est passé là il y a quelques jours. Je crois que c'est dans la région de Lugansk où un monument a été installé avec donc un monument à l'honneur de Staline. Et alors là, bien évidemment, ça vient conforter l'idée que cette nostalgie du communisme soviétique tel qu'il a existé dans cette région est néfaste quelque part jusqu'à aujourd'hui et vient en appui du séparatisme plus, si je puis dire aussi, de tout le travail de mémoire qui n'est pas fait, notamment en Russie.
Il y a deux ans, l'aspiration des manifestants de la place Maïdan était de retrouver un État normal, c'est-à-dire un État de droit sans corruption, qui ne soit pas tenu par des oligarques. Comment est-ce qu'on fait pour construire un État normal, Florent Parmentier ? On en est où plutôt ? Un an, alors on est deux ans après, on est un peu moins de deux ans après l'élection démocratique. On en est où, disons, des bases ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont déjà été faites, des lois votées, des réformes mises en place ?
Bien sûr, alors il faut revenir là-dessus sur la perspective de long terme. Quand on parle de construction de l'état de droit, ce sont des processus qui sont construits sur plusieurs centaines d'années dans certains de nos États. On ne peut pas s'attendre à ce qu'en deux ans, un État dans la situation de l'Ukraine, il faut le rappeler, 2014, c'était moins 6,8% du PIB, une chute de 12% cette année. Un État donc qui vit dans une situation économique extrêmement prégnante, qui vit dans un État où il y a un conflit à l'est du pays, il est évident que ce ne sont pas les meilleures conditions pour établir une meilleure gouvernance. Ça, c'est la première chose. On est vraiment quelque chose de long terme, mais on peut pas dire qu'en deux ans, je pense qu'il faut aussi faire crédit un petit peu aux Ukrainiens là-dessus. Est-ce que les réformes ont été aussi loin qu'il faudrait ? Non. Aussi loin qu'il était possible de faire, probablement pas. Est-ce que pour autant tout est à jeter ? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut partir. On pourrait montrer comme ça qu'il y a eu certaines évolutions. On pourrait penser peut-être à la réforme de la police à Kiev, qui a été un exemple précis de mise en place d'institutions.
Alors une police de 2000 hommes à peu près, d'après ce que j'ai pu lire, qui a d'ailleurs été financée en partie par des pays étrangers, par les États-Unis, je crois, entre autres. Une police que l'on qualifie de absolument incorruptible.
Oui, La difficulté là n'est pas tellement en fait cette expérimentation là, c'est plutôt la capacité d'un État comme l'Ukraine à généraliser la réforme des institutions sur un ensemble de sujets et sur l'ensemble du territoire de manière homogène. Je crois que c'est à ce moment-là où on pourra parler d'un État de droit consolidé. Il est évident que nous en sommes loin, que de nombreux conflits au sein du système politique ukrainien contemporain persistent. Je pense aux difficultés que vont s'opposer les partisans du président et les partisans du premier ministre, qui est l'une des difficultés auxquelles l'Ukraine actuelle fait face dans sa capacité à mettre en place des réformes. On pourrait parler là aussi du rôle de tel ou tel homme politique ukrainien, l'ancien gouverneur de Dnipropetrovsk, Igor Kolomoïski, qui est à la fois un grand milliardaire et aussi aujourd'hui quelqu'un qui a une, moins qu'on puisse dire, des relations difficiles, non pas non plus couper toute relation, mais enfin des relations relativement difficiles avec le président Porochenko. Je crois que la question de l'état de droit va se jouer sur le long terme, c'est la première chose, dans la réforme d'un certain nombre d'institutions, et si possible avec une volonté politique forte, sachant que ces hommes politiques doivent être dans une certaine mesure contraints par des acteurs extérieurs qui peuvent proposer, suggérer, parfois imposer un certain nombre de ces réformes qui sont difficiles à mettre en place. Et par ailleurs, ça c'est un dernier petit point, peut-être, il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de réformes ont pu avoir lieu en Europe centrale et orientale, qui constituent un modèle pour l'État ukrainien. Toutefois, on voit bien que dans certains pays d'Europe centrale, on peut penser à la Hongrie, on peut penser à la Pologne, il y a toujours des difficultés d'autonomie des institutions, de respect, etc., d'un certain nombre de règles. Donc là-dessus, je crois qu'il faut être patient, prudent, exigeant. Mais c'est la voie pour l'Ukraine aujourd'hui.
On a des attentes trop fortes, Anne de Tinguy, sur la transition démocratique en Ukraine.
Non, on n'a pas des attentes trop fortes, mais je crois que le plus important, c'est de savoir ce que les Ukrainiens eux-mêmes veulent. Et en fait, les Ukrainiens ont des attentes extrêmement fortes. La meilleure façon de le souligner, c'est de rappeler cette révolution orange qui a débouché sur un échec. Mais du coup, la population ukrainienne est redescendue dans la rue à Maïdan. Il y a de très très fortes attentes et une très forte volonté qui se manifeste aussi par le fait que la société civile est très active en Ukraine. Et donc, quand l'État est défaillant, eh bien, il y a une société civile qui, dans de nombreux domaines, prend les choses en main. Donc ça, c'est un point qui est tout à fait essentiel.
Donc pardon, alors, quand on pose ce soir la question de savoir si l'Ukraine a les moyens de son bras de fer avec la Russie, ça veut dire que parmi ses moyens, elle peut s'appuyer notamment sur cette envie démocratique dans la population.
Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, on évoquait tout à l'heure la lutte contre la corruption. Alors, de très nombreuses voix s'élèvent pour dire que ça ne va pas assez vite, que la corruption est encore beaucoup trop importante, des voix à la fois en Ukraine et à l'extérieur du pays. Il n'en reste pas moins que là, il y a un désir extrêmement fort au sein de la population. Encore une fois, les enquêtes de terrain le montrent. La lutte contre la corruption, c'est la première chose que les Ukrainiens voudraient voir bouger. Alors, je pense que il faut aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Florent Parmentier a dit, il faut être patient, les choses ne peuvent pas aller trop vite. Bien sûr, il y a le contexte de guerre, alors qui ne facilite pas les choses. Rappelons à propos du cessez-le-feu que quand même le cessez-le-feu a tenu. Alors, le cessez-le-feu de Minsk 2, dont qu'a évoqué Alexandra Goujon, a mis très longtemps à déboucher sur un apaisement de la violence, mais depuis le début du mois de septembre, il y avait un apaisement de la violence et un apaisement de la situation qui a duré grosso modo jusqu'au courant novembre. Depuis novembre, de nouveau, à maintes reprises, il y a des violations qui ont été signalées, notamment par l'OSCE. On n'en est pas revenu au combat lourd avec les armes lourdes des mois qui avaient précédé. Donc ça, c'est quand même un point qui est très, 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 très important. Alors, on ne peut pas tout mettre sur le dos de la guerre. C'est-à-dire que justement, une des très grandes difficultés auxquelles les autorités ukrainiennes et la population ukrainienne sont confrontées, c'est le fait que, eh bien, il faut gérer la guerre, mais en même temps, il faut avancer sur la voie des réformes.
Alors, justement, oui, pardon.
Ces
oui.
réformes, je finis juste, ne vont certes pas assez vite. Il n'en reste pas moins qu'il y a quand même des lois qu'on peut dire nombreuses qui ont été votées par la Rada. Il y en a une sur le financement des partis politiques qui a été votée il n'y a pas très longtemps, qui avait été beaucoup demandée par le Conseil de l'Europe et entre autres. Il y en a d'autres sur la décentralisation. Bon, c'est un début et c'est très très compliqué, mais quand même il y a des avancées. Tout est loin d'être satisfaisant, mais il y a quand même un certain nombre d'avancées.
Alexandra Goujon, si l'Ukraine ne passe pas ses réformes démocratiques, elle risque de perdre. Est-ce que l'enjeu, c'est elle ne risque pas de perdre à la fois le soutien de sa population et le soutien de l'Union européenne?
Tout à fait. De toute façon, ce qui est assez intéressant aujourd'hui en Ukraine, c'est que vous rencontrez des gens qui vous disent que l'Ukraine n'a pas le choix et que l'élite politique aujourd'hui n'a pas le choix, d'où qu'elle vienne. Il faut savoir que les élections locales, notamment à l'Est, sous contrôle de l'armée ukrainienne, je précise, ont reconduit un certain nombre de députés du Parti des Régions, qui se sont renommés en bloc d'opposition. Mais je veux dire, on a des acteurs politiques qui sont, dans un certain nombre d'endroits, exactement les mêmes que ceux sous la présidence de Yanukovych. Donc, il va falloir faire avec ces acteurs. Oui. Dans ce qui va se passer, c'est que ces élites, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, et c'est ce que disait à l'instant Anne de Tinguy, c'est que ces élites sont sous contrôle de la population. Slaviansk, qu'aujourd'hui, le conseil municipal fonctionne quasi systématiquement avec la présence de militants qui sont là pour voir dans quelle mesure le conseil municipal respecte ses engagements. Et là, il y a la volonté de mettre en œuvre une surveillance de l'exécution du budget municipal. Parce que la décentralisation a entraîné aussi un certain nombre de compétences qui ont été transférées au niveau local. Et l'idée, bien évidemment, quand on dit lutte contre la corruption, c'est lutte de la corruption dans la police. Et là, je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la patrouille, c'est la police routière. Hein. Elle est en train d'être mise en place partout, pas seulement à Kiev. Mais quand vous discutez avec les acteurs locaux, ils vous disent « Ah oui, mais quid de la police criminelle, de la police en général ?» Plus le gros problème qu'on a aujourd'hui dans la lutte contre la corruption, et là, on a effectivement un problème de formation qui est différent. Former une police routière, c'est pas tout à fait le même temps que de former des magistrats. Or, aujourd'hui, si on veut réformer la justice en Ukraine, et je crois que là, c'est vraiment, hein, quand on parlait d'état de droit, la police, il y a la justice, et là, c'est vraiment un gros morceau. Et ça, ça risque de prendre du temps.
Il nous reste plus de temps, il faut qu'on parle du soutien que l'Ukraine peut attendre des Européens, Florent Parmentier, aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une illusion, peut-être, à attendre un soutien fort des Européens pour les Ukrainiens?
Je crois que l'important pour la Commission, telle qu'elle a développé cette approche dans un certain nombre de papiers, c'est de permettre de se rapprocher d'un maximum de points sans pour autant permettre d'adhésion à court terme, voire à moyen terme. Il y a dans la proposition de réforme...
Est-ce que c'est clair, cela, pour le gouvernement ukrainien? Est-ce qu'il n'y a pas un malentendu entre l'Union européenne et l'Ukraine? Il y a un malentendu, d'ailleurs, que le gouvernement ukrainien n'aurait peut-être pas intérêt à lever pour ne pas décevoir la population sur cette perspective d'adhésion.
Là-dessus, donc, on peut reprocher beaucoup de choses aux institutions européennes. Jean-Claude Juncker a été assez clair, je pense, sur ce point.
Pas de perspective d'adhésion.
Pas de perspective d'adhésion à court terme, qui demanderait de toute façon une adaptation récente. En revanche, ce qu'il faut observer, c'est que malgré tout, un processus de quelques années, 5 ans à peu près de négociation, vient de s'achever. Et ce processus concernait la libéralisation des visas, qui est une demande forte de la part de la population ukrainienne. Il faut à la fois que l'Union européenne soit présente sur les questions commerciales, montrer que l'Union européenne permet de mieux vivre, mais aussi sur la capacité des Ukrainiens à pouvoir voyager plus librement au sein de l'espace Schengen.
On est où justement sur cette question des visas?
La commission a donné un avis favorable, ce qui veut dire que c'est aujourd'hui dans les tuyaux. C'est un point là-dessus, voilà, qui est important. Ça montre un soutien européen. Est-ce que le soutien européen se manifeste d'autre manière? Oui, si on parle des sanctions, car il ne faut pas oublier que les sanctions ont été prises à l'encontre de la Russie suite à la fois à l'annexion de la Crimée, pour laquelle l'Union européenne devait avoir une réaction, et par ailleurs suite au fait d'avoir abattu un avion de la Malaysian Airlines, où un certain nombre de ressortissants de l'Union européenne ont été abattus. Donc ça, c'est un engagement réel de la part des Européens qui a un coût tout aussi réel.
Anne de Tinguy, vous avez l'impression que l'Union européenne assume son soutien à l'Ukraine aujourd'hui ?
Oui. Je dirais oui, alors ce qui ne veut pas dire que peut-être l'Union européenne pourrait faire davantage, mais je ne suis pas une spécialiste de l'Union européenne, contrairement à Florent Parmentier, mais il me semble que compte tenu des difficultés diverses et variées que nous connaissons tous, auxquelles l'Union européenne est confrontée, il y a une prise de conscience que la question ukrainienne est très importante pour l'avenir de l'Europe. Et que donc il faut soutenir l'Ukraine, et soutenir l'Ukraine, ça peut être un soutien financier, mais ça veut dire aussi accompagner les Ukrainiens sur la voie des réformes et insistant pour que les réformes soient menées. C'est un point qui est extrêmement important.
Le soutien financier, justement, une manne là de 25 milliards de dollars a été accordée à la fois par le FMI, la BCE et la Commission européenne. Une manne financière en échange de réformes, parmi lesquelles on voit coupe budgétaire, libéralisation des entreprises publiques, hausse du départ à la retraite. Alors, est-ce que c'est un soutien ou est-ce que c'est un programme d'ajustement structurel à la grecque, Alexandra Goujon?
C'est tout le problème. On le sait aujourd'hui, on est dans une économie mondiale qui est libérale. Donc, les programmes du FMI sont toujours venus en soutien d'une économie qui est plutôt aujourd'hui une économie de rigueur. Donc voilà, c'est un aspect important. Alors bien évidemment, ça entraîne des discussions en Ukraine, mais je veux dire, vous parliez de la Grèce, on peut dire l'Espagne, on peut dire la France, sur la question quelle économie là, mais là je pense que c'est un autre débat sur quelle économie doit être fondée l'Union européenne.
Est-ce que les dirigeants ukrainiens sont prêts à s'engager sur de tels types de réformes, c'est la question.
Ils l'ont déjà fait. Si vous voulez, après, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le problème, c'est dans quelle mesure l'Ukraine se transforme réellement. Peut-être qu'elle ne va pas répondre à toutes les demandes, mais je crois qu'il y a un soutien réel. Et c'est pas qu'un soutien financier. Je crois qu'il faut bien voir. Notamment, il y a une délégation de l'Union européenne à Kiev qui fait un gros travail dans tous les domaines. N'oublions pas que l'Union européenne, c'est effectivement l'accord de libre-échange et c'est le fait de pouvoir faire en sorte que les Ukrainiens vendent davantage leurs produits sur le territoire de l'Union européenne. Mais il y a un accord d'association qui est une sorte d'accord cadre. Et cet accord, il prévoit une aide dans tous les domaines. La justice, la police. Donc, et l'idée, c'est quand même de rapprocher l'Ukraine. Et c'était ça quand même le point de départ de Maïdan. Hein, c'est de rapprocher l'Ukraine d'un régime politique, hein, de valeurs de l'Union européenne et d'un régime politique démocratique. Comme je disais à cette époque, c'est de faire en sorte que l'Ukraine soit un petit peu plus proche de ce qu'est aujourd'hui la Pologne et qu'elle s'éloigne un peu plus de ce qu'est la Russie en termes de système politique, voire politico-économique, parce qu'on en parle peu, mais la Russie est non seulement un pays autoritaire, mais aussi un pays dans lequel il y a de la corruption.
Il nous reste une petite minute, Anne de Tinguy, pour renverser la question de ce soir. Est-ce que la Russie, de son côté, a les moyens de continuer son bras de fer avec l'Ukraine, et donc avec derrière elle, on l'a compris, l'Union européenne?
Alors, ma réponse à la question est absolument complètement négative, mais la Russie n'avait pas les moyens de s'engager dans cette affaire qui, sur le long terme, est pour la Russie un désastre, parce qu'elle a perdu l'Ukraine et elle est aujourd'hui confrontée à des problèmes économiques. Nous savons que la Russie est en récession, qui sont extrêmement sérieux. Et elle est en plus maintenant engagée en Syrie et on ne sait pas très bien où tout cela va la mener.
Bon, résolution du conflit ukraino-russe pour bientôt, c'est ça?
Ça reste un grand point d'interrogation.
Petite moue pour Rémi. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. On va continuer à suivre ce dossier ukrainien. Merci Anne de Tinguy, historienne professeure à l'INALCO. Merci Florent Parmentier, politologue, maître de conférence à Sciences Po. Et merci à vous Alexandra Goujon, politologue, maître de conférence à l'Université de Bourgogne. Les références vers vos ouvrages sur notre site internet à la page Du Grain à Moudre sur franceculture.fr. Du Grain à Moudre, une émission préparée par Céline Leclerc, Antoine Dulster, Cyril Baer et Mathilde Barbier. Réalisation Hervé Marchon. Prise de son ce soir, Alexandre Dang. Demain, l'action humanitaire peut-elle s'adapter aux nouveaux conflits ?